Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing pour développer votre entreprise. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Aujourd'hui, je reçois à mon micro Bruno Guyot, consultant senior en acquisition et cofondateur de Blaise et Bruno. Bruno, il a une expérience solide parce que ça fait plus de 15 ans qu'il travaille dans le marketing, l'e-commerce et le web de manière générale et il est coach pour dirigeants, entrepreneurs et freelance. Il est aussi à l'origine d'un projet tout neuf dont je ne vous ai pas encore parlé dans le podcast. Ce projet, c'est le collectif de Blaise et Bruno, une équipe d'experts composée sur mesure pour répondre à vos besoins d'acquisition client. Et j'ai le plaisir d'en faire partie, donc ça fait maintenant plusieurs mois qu'on bosse ensemble en équipe sur des projets et ça fonctionne très bien. Cet épisode, il a été inspiré d'une conférence qu'on a donnée avec Bruno en mars 2024 au SMX où on parlait des nouveaux enjeux de l'acquisition pour les consultants. Et là, ça nous a donné des idées, des réflexions pour faire un épisode plutôt dédié aux marketeurs, aux responsables marketing et aux dirigeants d'entreprise. Parce que, vous le savez, 2024 nous met vraiment au défi sur la partie acquisition. On a un contexte économique qui est tendu, on a des évolutions de Google qui n'arrêtent pas de sortir, le Consent Mode, l'ASGE, Performance Max, et tout ça, ça vient bouleverser nos stratégies actuelles. Je vous laisse avec mon invité du jour. Hello Bruno.
Hello Léa.
Eh ben, on va démarrer en mettant directement les pieds dans le plat et en parlant des sujets qui fâchent, mais qui sont la dure réalité à laquelle on va devoir faire face en 2024. C'est le contexte économique qui est de plus en plus tendu.
Oui, ben, il y a effectivement beaucoup d'instabilité politique entre ce qui se passe en Ukraine, les US, la Chine, il y a pas mal d'incertitudes en Europe. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un ralentissement économique qui est quand même assez conséquent, qui se fait sentir. On voit notamment l'an dernier avec un record en termes de nombre de faillites. Et puis, on sent aussi au niveau de la consommation en France, avec l'inflation, que c'est plus difficile. Donc, c'est clair que le contexte économique et politique, il n'est pas hyper favorable actuellement. Et c'est sûr que ça se ressent aussi au niveau des performances d'acquisition, notamment.
Ouais, et puis du coup, si les Français, de manière générale, consomment moins, ont moins de pouvoir d'achat, ça a forcément une répercussion derrière sur les boîtes, où du coup, c'est de plus en plus compliqué de vendre. Et du coup, ça fait aussi augmenter finalement la difficulté à convertir, quoi.
On a un peu l'impression que c'est comme s'il y avait moins de poissons, mais qu'il y a toujours autant de bateaux de pêche. Et du coup, bah forcément, chaque pêcheur va ramener un petit peu moins de poissons et devra finalement galérer un peu plus pour aller essayer de faire son quota. Ouais.
Et en complément, tu vois, j'allais dire, en parallèle plutôt même de ce contexte économique qui est compliqué, on a le contexte aussi technologique, tout l'écosystème du coup autour de Google qui joue pas non plus en notre faveur, où on le voit de toute façon chez nos clients, je sais pas toi, mais que de manière générale, les coûts d'acquisition augmentent et c'est pas prêt de s'arrêter, quoi.
Effectivement, il y a malheureusement des signes qui sont pas très bons actuellement, et puis il y a des perspectives qui potentiellement sont pas hyper bonnes non plus. Finalement, il y a d'un côté cette hausse des coûts par clic qui est constatée de manière un peu universelle aujourd'hui sur à peu près tous les secteurs. Alors on apprend notamment aux États-Unis, parce que Google est en procès là-bas pour pratiques anticoncurrentielles, qu'ils augmentent les seuils minimaux du coût par clic sur la plupart des secteurs. Alors, ils nous disent c'est pas tant que ça, c'est 10%, 15%. Ce qu'ils nous disent pas, par contre, c'est à quelle fréquence ils le font. C'est pas impossible qu'ils le fassent plusieurs fois dans l'année. Donc, c'est vrai que 10% par-ci, 15% par-là, 2, 3, 4 fois dans l'année, à un moment donné, tu regardes entre le début d'année et puis la fin d'année, les pubs coûtent beaucoup plus cher, ça c'est sûr. Et puis, il y a aussi l'arrivée probable de Google SGE, c'est-à-dire des réponses générées par intelligence artificielle, comme on peut le voir sur Bing, par exemple. Et puis en fait, bah, ça a déjà été déployé aux États-Unis. Et puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'en moyenne, les sites vont perdre entre 40 et 60% du trafic SEO, du trafic organique. Et il y a fort à parier que les entreprises qui vont perdre ça vont aller compenser, ne serait-ce que partiellement, en faisant un peu plus de publicité, ce qui, d'une manière un peu métaphorique, va augmenter le nombre de bateaux, alors que, comme on disait tout à l'heure, il y a moins de poissons. Donc à un moment donné, forcément, ça va être de plus en plus difficile.
Ouais, et puis ce qui fait que déjà de base, tes clics te coûtent plus cher. En plus, il y a plus de concurrence. Forcément, ça va avoir un impact et on le voit déjà sur la rentabilité des campagnes qui fait que si tu n'es pas déjà très solide sur ton acquisition de base et que tu as des trucs qui sont un petit peu bancals, bah, ça va être encore pire et tu vas être beaucoup moins rentable, quoi.
Ouais, c'est clair. D'ailleurs, enfin, je sais pas si tu le constates de ton côté. C'est vrai que moi, je le constate de mon côté. Je l'ai échangé aussi avec d'autres personnes dans la communauté. Mais en gros, depuis septembre 2023, vraiment la rentabilité chez un peu tout le monde, elle a tendance à être relativement en baisse. Et puis on voit que sur le début d'année, premier trimestre 2024, bah en fait, c'est pareil, la tendance continue et puis ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Donc c'est sûr que ça commence à être problématique et qu'il y a plein d'entreprises qui commencent à se dire mais finalement, toute mon acquisition ou en tout cas, allez, 70-80%, c'est Google qui m'a amené des clients. C'était rentable, ça allait bien, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant si c'est de plus en plus cher, que c'est de moins en moins rentable et puis que comment je vais faire en fait?
Ouais, et puis t'as un peu ce truc où tu te disais, enfin moi j'ai eu exactement le même ressenti sur fin 2023 de se dire c'est une mauvaise passe, ça ira peut-être mieux en 2024, mais en fait non, ça va pas mieux en 2024, la situation s'améliore pas, donc on a même pas ce truc de se dire, pour rester dans le thème des bateaux, de se dire c'est une tempête, ça va passer et après ça ira mieux. Non, là c'est pas prêt de s'arrêter. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour réussir, j'ai envie de dire, à pérenniser son activité, à survivre à cette acquisition qui est de plus en plus compliquée. Et du coup, bah, ça nous fait la transition parfaite pour la suite, qui est de se dire, bah, finalement, en 2024, sur quoi est-ce qu'il faut travailler pour pouvoir exceller et sortir du lot?
Je pense qu'il y a plusieurs points. Si on prend le premier, c'est retour aux fondamentaux. En fait, on n'a pas le droit d'être mauvais, ni même moyen sur les fondamentaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir le bon positionnement, la bonne offre, et la bonne différenciation. Ça, vraiment, pour moi, c'est les trois piliers qui doivent absolument être respectés, étudiés et déployés, mis en place correctement, de manière à pouvoir sortir du fait d'être moyen. Finalement, là, c'est comme s'il y avait une époque jusqu'à ce que ça devienne un peu moins rentable, là, où c'était assez facile. On pouvait être moyen, mais la publicité, c'était pas un outil magique, ça l'a jamais été. Mais quand même, si t'attirais les bonnes personnes, même si ton offre, elle était moyenne, c'était possible de réussir. Et j'ai un peu l'impression que là, avec les événements, le contexte, tout ce qu'on vient de dire précédemment, bah, c'est plus possible, en fait. Aujourd'hui, quand on est moyen, ça ne marche plus. Et en fait, pour vraiment aller vers l'excellence, c'est étudier son marché, étudier la concurrence. De là, pouvoir avoir un positionnement qui soit ultra en adéquation avec les attentes du marché et qui nous différencie aussi de la concurrence. Et puis, c'est créer des offres, c'est avoir une vraie offre réfléchie, une offre qu'on appelle dans le jargon marketing un peu une offre irrésistible. Et là, quand on a ces fondamentaux-là, déjà, on se dirige vers l'excellence. Ça, c'est un premier point.
Et ouais, carrément, pour moi, tu as vraiment un changement de paradigme où les trucs qu'on pouvait un petit peu passer moins de temps ou faire un petit peu l'impasse, tu vois, je pense à un truc qui est le fait de faire une étude de ses personas, de bien connaître ses clients. Là où avant, tu en avais pas mal qui se reposaient sur des hypothèses, des idées qui pouvaient se faire. Là, pour moi, tu peux plus juste supposer, te dire ouais, certainement qu'ils rencontrent tel problème ou sinon, tu es obligé de faire une étude de marché approfondie. Et on le voit, enfin, je sais pas toi, même chez nos clients, qu'en fait, quand tu mets ça en place, c'est pas que du blabla de se dire il faut travailler tout ce qu'il y a en amont et que la publicité, ça n'a jamais été magique, mais ça l'est encore moins aujourd'hui. On voit la différence entre l'avant-après quand tu connais bien ton marché, quoi.
Ça me fait penser à un client, notamment. C'est le cas qu'on avait présenté ensemble au SMX. Donc, c'est un client dans le domaine de la vente de formation en ligne. Donc, de la formation pour adultes, pour personnes en reconversion. Et puis, bah, ils ont tout un tas de cursus qu'ils proposent à la vente. C'est des formations qui coûtent quand même assez cher. Hein. On est sur plusieurs milliers d'euros. Et puis, ils voulaient attaquer le marché suisse. Donc, ils y sont allés avec leur agence française. Et puis, ils ont attaqué la Suisse comme ils ont attaqué la France. Et puis, ben là, ils se sont cassés les dents. Donc, pendant un an, ils ont dépensé pas mal d'argent. Ils ont essayé. Ils ont essayé en se contentant d'aller faire de la pub, en se disant, ben, c'est les campagnes sont peut-être pas assez optimisées, ça, c'est peut-être pas assez bon. Et en fait, ils ont fini par venir nous chercher. Et puis, ben, à ce moment-là, on a fait l'étude du marché, on a fait l'étude de la concurrence. Déjà, au niveau du marché, le marché suisse n'est pas du tout la même chose que le marché français, même si c'est le marché suisse roman qui parle français. Donc, il y a des attentes qui sont très, très différentes. Et puis, au niveau de la concurrence, ils étaient persuadés de ne pas avoir de concurrence parce qu'en fait, il n'y a pas effectivement de vendeurs de formation en ligne autant spécialisés qu'eux sur le côté suisse. Mais par contre, ce qu'ils n'ont pas pris en compte, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas étudié leur marché, c'est que les écoles physiques, elles, c'est vraiment quelque chose qui rayonne très fort et qui marche très bien, à tel point que même si la formation ou la personne est mauvaise, entre guillemets, le fait de sortir de telle école t'ouvre les portes du marché du travail. Et ça, en fait, ils ne l'avaient pas du tout considéré.
Ouais, ça, pour le coup, c'est un truc que tu n'aurais jamais pu deviner si tu n'avais pas fait une étude approfondie du coup du marché pour vraiment comprendre les besoins du coup des apprenants, quoi.
Exactement. Puis il y avait une autre dimension aussi, c'est qu'ils avaient une approche basée sur des landing pages, des pages de vente très, très light, avec très, très peu d'informations. Et en fait, eux, ils se disaient, on prend les contacts et on va les rappeler, puis on va bourriner, entre guillemets, au téléphone, un peu comme tu le fais à la française, hein, c'est OK. Mais le problème, c'est que le marché suisse, lui, il n'est pas du tout OK avec ça. Les gens ont besoin d'avoir de l'information, quand même pas mal d'informations en amont. Et de manière générale, ils n'aiment pas trop être bousculés au téléphone. Donc en fait, il fallait amener toutes ces infos du marché, toute cette adaptation au marché, qu'on peut pas deviner, qu'il faut étudier, il n'y a pas le choix. Et une fois, effectivement, qu'on leur a mis en place, qu'on leur a donné ces informations-là, qu'on a fait nos landing pages copyrightés, beaucoup mieux renseignés, beaucoup plus adaptés au marché suisse, beaucoup plus aussi en adéquation avec les attentes et la psychologie du marché cible, et ben, en gros, on a fait x2, x3 sur les taux de conversion de lead. Et puis ben, là, on a fait en 3 mois... Le même nombre de ventes de formation qu'ils ont fait sur tout l'an passé en une année, en sachant que là, ils sont rentables pour la première fois, alors qu'ils n'ont jamais été jusqu'à présent.
Ah ouais, mais c'est ouf. Puis du coup, ça nous montre bien en fait que faut sortir en fait finalement de sa plateforme publicitaire et de regarder tout ce qu'il y a autour. Et c'est ça du coup là, dans ce cas-là, qui a été l'élément déclencheur en fait. Sans ça, t'aurais pas pu avoir ces résultats-là, même si t'avais restructuré toutes les campagnes, tout optimisé et tout fait aux petits oignons dans la partie Google Ads. Si t'as pas le contexte qui tourne bien autour, ça peut pas fonctionner, quoi.
Non, clairement. Bah, en gros, on a commencé par les campagnes, le temps de pouvoir faire l'étude en parallèle. Et en fait, sur cette première phase qui a dû durer 2 mois où on n'a fait que optimiser les campagnes, bah, on a fait un peu mieux, mais on parle de voilà, peut-être quelques pourcents d'économies sur le coût par vente de formation, quelques pourcents d'économies sur le coût par lead, mais ce n'était pas vraiment là où il y avait l'impact majeur, c'était vraiment sur les fondamentaux, encore une fois.
Et un deuxième point que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est, parce que pour moi qui est essentiel en 2024, c'est tout ce qui est lié à la donnée, au tracking. Là encore, je pense que c'est un truc sur lequel beaucoup de boîtes sont à un niveau très moyen là-dessus, qui est de se dire, on traque les données plus ou moins précisément, avec toute la partie aussi RGPD, cookies qui entrent en jeu, on perd des données, mais ça passe. Et là, pour moi, en 2024, ça passe plus. Et encore une fois, on le voit chez nos clients, c'est un véritable enjeu, quoi.
Ouais, les données et les signaux de succès, notamment. C'est vraiment de plus en plus quelque chose qui a une importance capitale. Je crois qu'on en discutait un petit peu off tout à l'heure, mais on a l'un comme l'autre un cas client sur lequel la perte de données peut carrément tuer le business et les campagnes en quelques mois, quoi.
Ouais, c'est clair. Moi, j'ai une cliente, justement, c'est tout récent là. C'était au mois de mars, du coup, avec les nouvelles réglementations, le consent mode V2, ils ont vu passer l'info, ils se sont dit, oh là là, faut qu'on se mette en conformité sur le RGPD. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas encore de CMP. Consent Management Platform, c'est en fait l'outil qui vous permet de gérer la bannière cookie. Ça peut être du Aceptio, du Cirdata, du Didomi. Et justement, dans le cas de ce client, ils ont mis en place Didomi, du coup, pour leur permettre d'avoir une bannière cookie conforme. Et je peux même te dire la date, ils ont mis ça en place, c'est le 10 mars. Et à partir du 10 mars, j'avais zéro conversion qui remontait dans Google Ads, 90% de perte de données dans Google Analytics. Et ça, en fait, ça a été la cata, bien évidemment, parce que du coup, on pilote tout à l'aveugle, ça dérègle tous les algorithmes et c'est ultra compliqué, du coup, à solutionner parce que dans tous les cas, l'impact, enfin, le mal est fait, j'ai envie de dire. Donc, bien évidemment, on va redresser la barre, mais il y a une phase dans laquelle on a perdu des données, on a perdu les algorithmes. Et surtout, moi, où je trouve que c'est important de sensibiliser aussi nos auditeurs, c'est qu'on a l'impression que mettre en place une CMP, c'est facile. T'installes ton plugin, tu mets tes petites couleurs, ton oui, non, tes paramètres. Mais en fait, on a du mal à imaginer tout ce qui se cache un petit peu sous le capot et tous les paramétrages qu'il y a à faire dans le code, dans Google Tag Manager, pour que les balises se déclenchent correctement. Et ça, c'est vraiment... franchement, ça a été vraiment la cata. Et du coup, là, l'idée, c'est de se dire comment t'anticipes au mieux ça et comment tu fais pour récolter un maximum de données en respectant un maximum le RGPD, quoi.
Ouais, c'est ça, il y a une espèce de convergence avec d'un côté des lois et des réglementations toujours plus contraignantes qui nous empêchent de collecter la donnée, et puis d'un autre côté, c'est un peu paradoxal, c'est que les données et les signaux de succès dans les plateformes publicitaires, puisque tout est algorithmique de plus en plus, dès lors qu'on a un dérèglement des données ou une perte de données, ça devient la catastrophe. Et typiquement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Moi aussi, j'ai eu un client qui a eu un problème avec ces choses-là. En gros, je compte en faire une vidéo. C'est comment tuer ton e-commerce en 2 mois. Et on ne se rend pas compte, mais genre, ils ont mis le consent mode mi-février. Avec une CMP comme toi, ils n'avaient pas de système de consentement avant. Ça a été fait avec une CMP qui est pas très bonne. Je donnerai pas de nom, mais c'est pas une très très bonne CMP. Derrière, ça a été mis en place de manière un peu trop stricte. Et puis finalement, ils perdent plus de la moitié des données. Tout est géré aux algos et le compte descend et ils se retrouvent à des niveaux de chiffre d'affaires où ils pourraient licencier des gens. Putain, c'était il y a un mois et demi. C'est l'importance des données. C'est incroyable.
Et c'est là, tu vois, où pour moi, il y a un vrai enjeu sur le tracking aussi et de se dire, même si tu as une équipe de développeurs en interne ou des marketeurs, pour moi, c'est une compétence vraiment à part entière qui est très technique. Donc, si la boîte la maîtrise en interne, c'est OK. Mais pour moi, ça, typiquement, c'est vraiment le truc qu'il faut externaliser. Tu le mets en place une fois, one shot, au moins, c'est propre. Et en fait, tu peux pas passer... t'es obligé de passer finalement par cette étape-là, même si ça te coûte un billet que t'avais pas prévu. Parce que pour moi, si t'as pas un tracking solide, c'est un seau d'eau avec tout plein de trous que tu vas avoir dans ton acquisition derrière et beaucoup, beaucoup d'argent jeté par les fenêtres, quoi.
Oui, clairement. Il y a plein de sujets, effectivement. La liaison CRM, l'envoi des données first party, parce qu'il faut préparer le fait que bientôt, il n'y a plus de cookie tiers. Il y a aussi la notion de, comme on disait, l'enjeu du consentement et d'avoir un truc qui te permet de récolter 80% de oui plutôt qu'un truc où tu as 40% de gens qui font pas de choix et puis t'en as 20 qui refusent et puis toi tu te retrouves avec 40% de tes données. Entre 40% des données et 80, ça peut être la vie et la mort pour une même boîte, quoi.
C'est clair. Et là, on parle de tracking, on a parlé de positionnement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun travail à faire dans les plateformes publicitaires comme Google Ads où tout est 100% automatisé. Au contraire, ça se corse de plus en plus et ça devient de plus en plus challengeant. Pour moi, aujourd'hui, on ne peut plus jeter son argent par les fenêtres. Déjà, c'est la galère économiquement, le contexte technologique ne nous aide pas. On a des budgets marketing qui sont restreints. En gros, pour moi, le big challenge de 2024 et que moi, j'ai avec pas mal de mes clients, c'est comment tu arrives à faire mieux avec moins. Donc du coup, pour moi, il faut être ultra minimaliste et très zéroïste et de se dire, typiquement, tout ce qui sert à rien et qui nous génère pas de vente, ça dégage. Tu vois, un exemple concret que j'ai en tête, j'ai fait une restitution d'audit la semaine dernière pour un client. Il avait une campagne display qui avait dépensé 5 ou 6 000 euros sur les 6 derniers mois et elle avait généré 0 vente. OK, ça joue pour la notoriété, on est dans un parcours avec plusieurs points de contact, mais là quand même, on est sur zéro vente. Donc du coup, pour moi, l'idée, c'est de se dire, cette campagne-là, elle dégage et on va créer une nouvelle campagne qui va beaucoup plus être orientée conversion et qui va permettre en priorité à la boîte de générer du chiffre d'affaires parce que bah, c'est le moteur du business, quoi.
Ouais, bien recentré sur les choses qui ramènent effectivement et être davantage focus. Après, peut-être une question pour toi aussi, mais qu'est-ce que tu penses de tous ces comptes qu'on récupère ces derniers temps et qui sont tous passés en performance max et où il n'y a plus que ça dans le compte et où c'est tout mélangé, du search, du shopping, du machin. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça?
Bah, ça pour moi, c'est la grosse cata et c'est le gros piège dans lequel pas mal de boîtes sont tombées. C'est que, en effet, on a récupéré pas mal de comptes où t'as du performance max. Donc, performance max pour nos auditeurs, c'est les campagnes 100% automatiques de Google qui font des promesses de vous générer un maximum de ventes. Mais en fait, quand on creuse, on a des campagnes 100% automatiques. Ça diffuse n'importe où. Les coûts par clic explosent. On voit que ça diffuse pas forcément sur ce qui va être le plus rentable pour nous, même si c'est ce qui a priori fait gonfler les chiffres dans la plateforme. Pour moi, c'est vraiment un piège dans lequel il faut pas tomber et il faut se dire OK, trouver encore une fois le juste milieu entre se dire on fait confiance aux algorithmes, on en a besoin et c'est aussi ce qui nous permet d'avoir des campagnes plus performantes, mais en fait continuer à avoir de la maîtrise et du contrôle et pas hésiter à utiliser du manuel, enfin tu vois, des campagnes search très ciblé, des campagnes shopping manuelles pour les e-commerce, pour moi, c'est essentiel, quoi.
Ben, c'est vrai que, alors, sans rentrer dans les détails de la technique du machin, mais effectivement, de plus en plus, Google, ça fait des années qu'ils poussent toujours plus à l'adoption d'automatisation. Aujourd'hui, on est à l'apothéose, entre guillemets, avec leur campagne qui « donne-moi ta carte bancaire, je te promets, tu verras, tout se passera bien ». Et puis finalement, plus tellement de contrôle, plus tellement de visibilité sur ce qui se passe. C'est vrai que dans les derniers clients là qu'on reçoit depuis quelques mois, des prospects qui se transforment en clients, bah en fait c'est un peu toujours le même schéma. C'est je comprends pas, ça fait quelques mois que mes campagnes sont de moins en moins rentables. Ok, montrez-moi votre compte. Et en fait, bah ça fait quelques mois que on a enlevé toutes les campagnes à l'ancienne et qu'on est passé sur des campagnes complètement automatiques. Alors après, la plupart du temps, ils nous disent oui, mais on a Google au téléphone, on les a une fois par mois, c'est ce qu'ils nous disent qu'il faut faire. Ben oui, c'est ce qu'ils disent qu'il faut faire, mais malheureusement, depuis que tout le monde est en Pmax, tout le monde voit ses performances baisser. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est cause-conséquence, mais il y a quand même une très forte corrélation qui pose des questions.
Ouais, et puis t'as tout le lot, j'ai envie de dire, qui va un peu avec performance max, tu vois, ça me fait penser à un autre fléau que je vois passer sur des comptes, c'est les applications automatiques. En fait, Google propose de mettre en place directement des actions automatiquement dans votre compte, augmenter les enchères, ajouter des mots-clés, changer les budgets. Et ça veut dire qu'on laisse Google piloter à notre place et concrètement, il fait ce qu'il veut et ce qu'il aime bien faire souvent, c'est dépenser de la argent, même si c'est pas forcément rentable pour vous, et c'est la somme en fait de toutes ces petites actions qui on rentre dans un pilotage automatique et du coup où on perd totalement le contrôle et du coup derrière par ricochet on perd forcément en rentabilité.
Bah, le problème c'est que Google il a un conflit d'intérêts, c'est-à-dire que d'un côté il doit donner des performances aux annonceurs, mais d'un autre côté il doit faire toujours plus d'argent pour avoir des jolis résultats, le cours de la bourse, les actionnaires, et au final l'impression que moi ça me donne au fur et à mesure des années, c'est que avant l'intérêt principal c'était la performance, l'amélioration du produit, la satisfaction des annonceurs, et puis à un moment donné là dans les 5-6 dernières années ça a bifurqué, et puis bah maintenant c'est vraiment comment par tous les moyens on essaye de faire progresser l'entreprise et faire plus d'argent, et malheureusement parfois, pour pas dire souvent, au détriment des annonceurs.
Ouais, et c'est là où pour moi, nous, on ne doit pas se faire avoir et on doit au contraire rebondir et du coup être proactif et même beaucoup plus créatif aussi là-dedans, parce que du coup, les plateformes sont de plus en plus complexes, on va dire, à gérer, parce que du coup, il y a beaucoup plus, ça devient une boîte noire finalement, il faut réussir à la contrôler et à la maîtriser comme il faut. Tu as l'acquisition qui coûte de plus en plus cher, ce qui fait que quand on va aller chercher des conversions très bas de funnel, donc de l'achat, de la génération de leads, des ventes directement, ça va être beaucoup plus compliqué et du coup, il faut aussi trouver d'autres solutions, de se dire comment est-ce que dans ce contexte-là, on peut continuer à faire de l'acquisition à moindre coût.
Ouais, bah, c'est intéressant ce que tu dis là. On a toujours été un peu dans une approche feignant. C'est un peu comme ça que j'aime le définir. C'est-à-dire, tu viens sur Google, tu viens te mettre en face de gens qui recherchent à acheter un produit que tu proposes ou un service que tu proposes. Et puis, bah, finalement, c'est assez facile. Tu viens avec une bonne page de vente, cueillir des fruits qui sont déjà mûrs. Alors, bien sûr, il y a de la concurrence, ça coûte cher, etc. Mais globalement, c'est assez facile. Et puis, bah, j'ai un peu l'impression qu'on arrive à une époque où, bah, de par tout ce qu'on a dit précédemment, c'est comme si aller chercher les fruits les plus mûrs en bas de l'entonnoir de vente, ça devient tellement cher que finalement, alors, je dis pas qu'il faut plus y aller, il faut probablement continuer d'y aller, optimiser, mais à un moment donné, il faut être réaliste et se dire, voilà, si ça dépasse tel coût d'acquisition ou si ça baisse en dessous de tel retour sur investissement publicitaire, je ne peux plus. Donc, je dois brider, prendre tout ce que je peux tant que c'est rentable pour moi dans cette tranche-là. Et en fait, ce qu'il faut, c'est aussi aller chercher des clients un peu plus en amont, c'est-à-dire devenir moins feignant. Pourquoi je dis ça? Parce que bah, pour aller chercher des gens qui sont un peu plus en amont, bah, par exemple, on a un client dans le domaine des poêles, poêles à peler, cheminées, etc. Et finalement, c'est se dire bah, comment on va pouvoir aller chercher des personnes un peu plus en amont dans leur réflexion. Peut-être qu'elles n'ont pas encore choisi avec qui elles veulent travailler. Peut-être qu'elles n'ont pas choisi si ce sera un poêle à bois ou un poêle à peler. Peut-être qu'elles n'ont pas choisi la marque. Mais par contre, elles sont sensibles au fait qu'elles veulent réduire la facture de chauffage. Et puis, bah, là, l'idée, c'est de dire, OK, bah, créons des contenus qui vont comparer, par exemple, le chauffage électrique, le chauffage au gaz, le chauffage au bois, mettre en perspective les dernières évolutions du prix, de la hausse du prix de l'électricité, de la hausse du prix du gaz et puis de la hausse du prix du bois. Et puis, bah, démontrer que le chauffage au bois, c'est une des meilleures solution, essayer de capter un email à ce moment-là et ensuite, avec des séquences d'emails automatisées, puis éventuellement du rappel par des commerciaux, bah, tu vas pouvoir transformer ce client que tu as chopé un petit peu plus tôt. Donc, ça demande un peu plus de patience, ça demande plus d'efforts parce qu'il faut aller créer les contenus. Mais par contre, quand tu peux plus aller chercher les clients tout en bas et puis qui tombent tout cuits parce que les prix deviennent exorbitants, à un moment donné, il faut se poser les questions. Puis 2024, c'est un peu, en tout cas au niveau publicitaire, l'impression que ça donne, c'est que il faut commencer à remonter, à être un peu moins feignant pour compenser le fait que quand on va aller chercher tout en bas, ça devient vraiment très très cher et très compliqué.
Et cette démarche-là, je pense que, tu vois, si je me mets à la place d'un fondateur ou d'un respo marketing dans une boîte, elle n'est pas facile à mettre en place parce que, comme tu dis, en fait, ça demande plus d'efforts, ça demande plus de temps. Et c'est aussi incertain parce que tu peux avoir toujours cette peur de dire, OK, je fais du nurturing et tout, mais est-ce que derrière la personne va convertir? Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas y aller. Et justement, c'est là où pour moi, c'est un peu contre-intuitif et qu'au contraire, il faut vraiment miser là-dessus pour pouvoir aller chercher des conversions, comme tu dis, qui sont peut-être plus haut de funnel, mais qu'on aura finalement à moindre coût plutôt que si on était allé les cueillir une fois qu'ils étaient au bout du processus d'achat. On rentre finalement dans leur tête et dans leur processus de décision beaucoup plus en amont.
C'est ça. Alors bien sûr, ça demande un peu plus d'efforts par la création de contenu, un peu plus de patience, mais en gros, entre un client que t'attrapes à ce moment-là et un client que t'attrapes tout en bas, ça peut être 2 à 3 fois moins cher.
Donc du coup, la question se pose moins une fois qu'on a ça en tête.
C'est clair.
Et la dernière brique, je dirais, pour tu vois, être vraiment solide en acquisition en 2024, nous, ce qu'on voit pas mal chez nos clients, c'est vraiment tout ce qui va être la partie conversion, c'est-à-dire l'expérience après clic, une fois que mon utilisateur il est arrivé sur le site internet. Donc, c'est ce qu'on appelle le CRO, le CRO. Donc, vraiment tout ce travail de conversion et d'optimisation du parcours. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu, toi, de tout ça et quel est un petit peu ton évolution là-dessus, j'ai envie de dire, au fil des mois et de ce que tu observes chez tes clients.
Alors, ça fait des années qu'on prêche cette bonne parole. Il faut s'intéresser à ce qui se passe après. Il faut faire des A/B tests. L'expérience ne s'arrête pas au clic sur la publicité. C'est là que tout commence seulement. Donc, effectivement, dans cette vision de comment exceller en 2024, je pense qu'on peut absolument plus, de la même manière qu'on peut plus passer sur le fait d'étudier bien le marché, etc., d'avoir toute la compréhension du marché en amont de lancer les campagnes, bah, je pense qu'en aval, c'est-à-dire après avoir lancé les campagnes, on ne peut plus non plus passer à côté de ça. Il faut tester. Ce que j'aime souvent dire aux clients, c'est on va déployer pour vous un laboratoire expérimental. Et en gros, on va tester tout ce qui est possible de tester. Et c'est pas, enfin, c'est assez souvent qu'entre le moment où on lance des campagnes et 3 à 6 mois plus tard, quand on a vraiment tester, optimiser, itérer, analyser les données, etc., qu'on puisse clairement améliorer les résultats encore. On peut diviser par deux les coûts par acquisition en 3 à 6 mois grâce à cette méthode de test, d'analyse de données, d'itération.
Ouais, c'est là où, tu vois, je sais que tu as certaines personnes qui ont pas mal en tête, et en même temps, c'est ce qui a été beaucoup mis en avant pendant longtemps, de se dire que la publicité, c'est les résultats immédiats, tu lances ta pub et le cash arrive directement après. J'aime bien justement cette vision que tu as de laboratoire, parce que pour moi, c'est ça en fait, c'est justement, une fois que tu as lancé la machine, c'est là que tout commence et qu'il faut comprendre ce qui fonctionne pas, tester différents angles. Tu vois, ça me fait penser avec un client, ça a été vraiment ça. Et lui, il avait des campagnes Google Ads qui tournaient genre depuis 2 ans et ça vivotait. Il avait quelques leads, il est dans le B2B, mais c'était pas mirobolant non plus. Et en fait, pour moi, l'enjeu, il était vraiment post-click, c'est-à-dire vraiment tout ce qui se passe après Google Ads. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis à plat toutes les campagnes, j'ai revu l'architecture du compte, mais il y a eu un vrai travail en fait d'AB test de landing page où on a testé en fait différentes promesses pour bien mettre en avant son positionnement et comment est-ce qu'il se différencie de la concurrence, et un peu ce truc, bah, qu'est-ce qui fait qu'on va acheter chez toi plutôt que chez un autre. Et du coup, on a trouvé finalement l'angle gagnant, on a tout misé là-dessus, et tu vois, franchement, en 2 mois, on a divisé par 3 les coûts d'acquisition qu'il avait initialement. Et certes, il y a eu le travail qu'il y a eu dans Google Ads, mais en fait, c'est surtout ce travail qu'il y a eu d'AB test sur les landing pages, qui est de se dire, OK, on a mis plusieurs semaines à craquer le truc, mais une fois qu'on l'a bien en tête, bah là, en fait, on peut bombarder derrière et justement ouvrir, j'ai envie de dire, le robinet de l'acquisition et envoyer du trafic qualifié, parce qu'on est capable derrière de le convertir, parce qu'on a compris ce qui faisait mouche finalement auprès des utilisateurs, quoi.
Exactement, exactement. Du coup, finalement, comment exceller en 2024? Donc, être bon sur le positionnement, l'offre, la différenciation, tout ce qui est aval des campagnes, la donnée, le tracking, comment on fait pour avoir le maximum de données, en sachant qu'on a pas mal de bâtons mis dans les roues à cause des réglementations, des navigateurs. C'est vrai qu'il y a plein de sujets là-dessus. Est-ce qu'il faut aller en server-side? Est-ce qu'il faut... Il y a tout un tas de sujets, mais maximiser la donnée, c'est vraiment le pétrole actuel. La diffusion publicitaire, arrêter de jeter l'argent par les fenêtres. Attention à l'automatisation à outrance et trouver le juste compromis entre je garde du contrôle, ça me prend un peu de temps de travail, et je donne tout à Google, je lui fais 100% confiance. Et il faut faire attention à ça. Et puis finalement, comme tu le disais, l'expérience après clic, finalement, au clic sur la publicité, c'est là que tout commence et non pas là que tout finit. Donc, il faut aussi s'intéresser et mettre en place des laboratoires d'expérimentation, de la mesure de tout ce qui se passe, des interactions, suivre les bons KPI et puis faire progresser et itérer sur la base de ce qu'on a déjà fait. Ouais.
Et pour ça, j'allais dire, pour compléter là-dessus, parce que je pense que c'est un truc ultra important où pas mal de boîtes sont passées à côté, tout ce qui va être outils d'analyse type Google Analytics 4 ou un Matomo ou quoi, bien paramétré, où on peut voir facilement les données, les entonnoirs de conversion. Pour moi, ça, c'est essentiel à mettre en place aussi, parce que c'est ce qui va te permettre d'identifier les trous que tu as dans ton parcours. Et c'est là-dessus, enfin, c'est ça qui va te permettre de pouvoir travailler dessus et de pouvoir itérer et optimiser ça.
Ouais, complètement d'accord. Ouais.
Et du coup, pour maintenant qu'on a dressé, j'ai envie de dire, ce portrait-là, selon toi, qu'est-ce que... Alors, soit, j'allais dire, si on se dit que, par exemple, un marketeur, un dirigeant externalise toute cette partie acquisition, qu'il a un partenaire, une agence qui l'aide justement à gérer tout ça, pour toi, qu'est-ce qu'un responsable marketing ou un dirigeant doit attendre d'une agence en 2024?
C'est une bonne question. Je dirais que on l'a vu, on l'a dit, l'opérationnel est de plus en plus automatisé. Alors il faut rester raisonnable et quand même se dire que c'est important que l'agence elle fasse un travail avec du contrôle et non pas que simplement elle passe tout sur de l'automatique, parce que on voit bien que quand tout est automatique, c'est quand même fortement corrélé à une baisse de rentabilité. Donc, je pense qu'il faut trouver le juste milieu et s'assurer que l'agence, elle fasse quand même du travail et puis qu'elle soit gardienne d'un contrôle face à Google. Moi, c'est souvent ce que je dis aux clients, c'est nous, on est les gardiens de vos intérêts face à Google. Bien sûr, on utilise leur plateforme publicitaire, mais on sait qu'ils sont biaisés, on sait qu'ils ont un conflit d'intérêts et on sait que dès qu'on fait pas attention, il y a toujours des petites options par défaut, des machins automatiques, des trucs qui font que ça plombe la rentabilité. Donc, nous, on est les gardiens par rapport à ça. Donc, premier point, c'est s'assurer que l'agence fasse quand même un minimum de travail et non pas qu'elle elle envoie tout sur de l'automatiser. Ça, ce sera un premier point. Toi, tu verras un autre point?
Bah, moi, je pense qu'il y a aussi pour moi ce truc qui est un peu finalement que nous, quelque chose que nous, on fait déjà depuis un moment, mais qui est de plus en plus important chez les clients aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est de se dire, de pas se cantonner en fait à faire tes campagnes Google Ads, ta popote, mais finalement d'être là pour vraiment challenger ton client, pouvoir lui apporter toi ta vision stratégique, ta vision globale sur le business et de se dire ok, on fait partie de la même équipe, l'objectif c'est de développer la boîte et je suis ok de sortir de mon périmètre de l'acquisition et de te faire en fait des conseils et surtout d'être proactif, de dire bah voilà, selon moi dans ton business il y a X, Y, Z qui peuvent être améliorés. On va travailler ensemble là-dessus. Et pour moi, c'est ce qui va, du coup, par ricochet, permettre d'augmenter la rentabilité des campagnes.
Ouais, carrément. Donc, c'est ça. C'est aussi une tendance que j'ai pu observer. On va dire que depuis 6-8 mois, j'ai systématiquement des clients qui sont vraiment en quête de conseils, de stratégies, de visions, qui vont dire éventuellement, je travaille avec une agence, c'est des bons exécutants, j'en suis content, mais par contre, sur la partie stratégie, je suis pas challengé. Je sais pas, peut-être que dans ton audience, il y a des gens qui se reconnaîtront là-dedans. C'est en tout cas vraiment de plus en plus des dirigeants d'entreprise qui viennent nous chercher sur cet aspect-là. Et effectivement, ce que tu peux attendre, ce que tu devrais attendre de ton agence en 2024, de ton agence ou de ton partenaire ou de ton prestataire, c'est il faut qu'il te challenge et il faut aussi effectivement qu'il puisse avoir une expertise plus large sur la chaîne de valeur et pas qu'il soit simplement cantonné avec des œillères à dire Google Ads, Google Ads, Google Ads, parce que bah, aujourd'hui c'est beaucoup plus large que ça. Et il faut effectivement, quoi qu'il en soit, même s'il faut faire attention à pas aller trop dans l'automatisation et garder un certain contrôle, l'air du temps va quand même sur le fait qu'il y a de moins en moins de temps passé dans la gestion opérationnelle des campagnes publicitaires. Et du coup, ça devrait être compensé par vraiment cet aspect challenge, coaching, pour essayer d'aller voir plus large et puis de challenger les clients.
Ouais, et puis finalement, de pas avoir une posture, j'ai envie de dire, juste d'exécutant, se dire ok, on fait le taf des campagnes, mais plutôt prendre de la hauteur et se dire comment est-ce que je peux apporter ma vision stratégique et apporter, être finalement multi-compétence, avoir Google Ads, mais que ce soit qu'une compétence parmi tant d'autres. Et pour moi, là-dessus, tu as deux sujets. Tu as déjà être capable d'avoir cette vision-là, mais tu as aussi ce truc de se dire de manière opérationnelle, c'est ok que tu ne sois pas au point sur tous les éléments. Et c'est justement là où, pour moi, tu as l'intérêt d'être une team ou du coup un collectif comme nous. C'est comme ça qu'on s'est regroupé en fait assez naturellement, de se dire on est un collectif de plusieurs experts. Chacun a sa spécialité sur une verticale très précise. Et ça, c'est au service du client parce que ça lui permet de lui apporter toutes les panoplies de compétences dont il a besoin.
Oui, et puis il y a aussi vraiment cet aspect, effectivement, alors multi-compétences. Et puis finalement, c'est vrai que moi, une des principales motivations d'avancer ensemble sur ce collectif qu'on a créé, c'était de me dire, je sens que de plus en plus, il y a des besoins en stratégie, en conseil. Et en même temps, je peux pas faire ça et l'opérationnel en étant tout seul ou en étant ne serait-ce que deux avec Blaise. C'est tout de suite plus compliqué. Et finalement, là, depuis qu'on a monté ce collectif, alors c'est vrai que chacun est à sa place, ça amène énormément de compétences très complémentaires et on a une transversalité qui est incroyable aujourd'hui. Et puis surtout, bah, moi, ça me permet de pouvoir me dire, bah, je fais moins de production, voire j'en fais presque plus. Mais par contre, bah, je vais pouvoir être beaucoup plus actif, présent et pertinent sur la partie conseil. Alors, j'ai pas envie de dire à 360, mais par exemple, si on prend l'exemple du client dont on parlait, de la vente de formation en ligne, bah, typiquement, on a pu les challenger sur le marché, la différenciation, l'offre, etc. Ça, c'est des choses que si on est trop dans l'opérationnel, c'est compliqué. Et puis, bah, à contrario, par exemple, pour l'autre client qui vend du poil, bah, c'est pareil. C'est aussi d'être capable de leur dire attends, c'est bien ce que tu fais sur Google, mais il faudrait remonter un peu dans l'entonnoir. Là, il faudrait créer des contenus. Voilà les types de contenus qu'il faudrait créer. Ensuite, derrière, on récupère des leads. On va essayer de les attirer en leur proposant tel truc. Derrière, une fois qu'ils sont là, faut mettre en place ce qu'on appelle du nurturing, le fait d'aller envoyer des communications pertinentes et intéressantes à ces gens-là pour les faire mûrir dans leur entonnoir de communication. C'est ça, pour moi, l'aspect stratégique, l'aspect conseil qu'on doit amener à nos clients. Et c'est vrai que, en tout cas, pour ma part, le fait qu'on soit allé dans cette direction du collectif, bah, ça me permet de pouvoir me concentrer beaucoup plus là-dessus. Parce que, encore une fois, à mon avis, en 2024, les agences et les prestataires qui vont survivre seront ceux qui auront aussi fait ce mouvement de dire « Oui, je suis bon sur une plateforme publicitaire, mais je suis plus que ça. Et surtout, je te challenge, je te coach et je te conseille pour t'aider à casser ton plafond de verre, en fait. »
Carrément, et d'où l'importance. Du coup, pour moi, c'est encore plus vrai en 2024 d'être bien accompagné et d'avoir des prestats, des partenaires sur qui tu peux compter, en qui tu as une totale confiance et tu sais qu'ils vont justement être là pour propulser ton business, quoi.
Alors après, c'est une vraie question, mais c'est vrai que nous, on se vend dès que c'est possible et dans la plupart des cas à la performance. Et c'est justement l'argument, en fait, de dire, voilà, nous, on croit en vous. Déjà, en fait, on ne bosse pas avec tout le monde. C'est on vous accepte comme client parce qu'on pense qu'il y a du potentiel chez vous. Et ensuite, derrière, on se propose à la performance. Pourquoi? Bah parce que c'est aussi s'asseoir du même côté de la table que le client, c'est aussi prendre des risques avec lui, puis c'est lui montrer qu'on n'est pas un simple exécutant ou un simple fournisseur de services. On est un partenaire business et on a un vrai intérêt à ce que ta boîte, elle progresse parce que nous, on veut progresser avec toi.
C'est ça, ouais, les intérêts sont alignés et du coup, on avance ensemble dans la même direction, quoi.
C'est ça.
Trop cool. Eh bien, écoute, je pense que le moment est venu de clôturer cet épisode. Très contente qu'on ait pu faire un petit balayage, finalement, d'un peu toutes nos réflexions du moment et finalement un plan d'action à dresser, du coup, pour nos auditeurs en 2024.
Plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci à toi, Bruno. Et avant de terminer, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter ou te retrouver s'ils ont envie d'échanger avec toi?
Oui, bah alors c'est vrai que je suis quand même assez présent sur YouTube, c'est ma plateforme de prédilection. Et puis sinon, c'est blaisebruno.com qui emmène sur le collectif et ce projet merveilleux qu'on partage à neuf depuis quelques mois maintenant.
Trop cool. Eh bien écoute, merci beaucoup et je te dis à très vite.
À bientôt.
Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le à un marketeur ou à un fondateur à qui ça pourrait être utile. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast pour convaincre de nouveaux invités de nous partager les coulisses de leur stratégie marketing. Et pour aller plus loin, téléchargez la bibliothèque de ressources co-construite avec mes invités pour développer votre croissance. Rendez-vous sur l'effetmarketing.fr dans l'onglet ressources ou tout simplement dans la description de l'épisode. Merci pour votre soutien et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !